sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. C'est avec plaisir que je vous retrouve comme chaque jour à 16h et en direct pour partager vos expériences de vie. À mes côtés, ma charmante camarade Ombline.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour,
bonjour
à tous.
7h, c'est la vôtre, comme vous le savez, on parle de vous, de ce qui vous anime, de votre vécu, car il nous intéresse. Alors on va parler du travail aujourd'hui. Faut-il aimer son travail pour être heureux ? Cette question, qui pourrait être le sujet d'une dissertation de philosophie, interroge. Il y a d'un côté ceux qui travaillent et qui vivent pour leur travail, un travail passion comme on dit, et de l'autre ceux qui s'en contentent, qui cherchent surtout une stabilité financière et de quoi payer leurs factures. Il y a aussi ceux qui le subissent. Aujourd'hui, 7 salariés sur 10 ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur. C'est le résultat d'une étude menée en 2015 par Deloitte et Cadre Emploi. Est-ce sain de faire de son travail la clé de son bonheur, ou doit-on prendre de la distance, ou au contraire y trouver un intérêt ? Faut-il aimer son travail pour être heureux ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et pour nous raconter vos histoires, vous composez le 3921, le standard d'Europe 1. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Nina. Bonjour Nina.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Nina ?
Alors, moi, j'ai 28 ans et d'où je vous appelle, là, je suis dans un hôtel parce que je fais de la promo, parce que je suis attachée de presse, mais sinon, je travaille chez Polydor dans un label d'Universal Music.
D'accord, donc vous êtes attachée de presse dans le milieu de la musique.
Tout à fait.
En quoi consiste votre travail exactement ? Alors, expliquez pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, le métier d'attaché de presse, et particulièrement dans la musique, c'est de défendre des artistes pour parler de leur album et de leurs actualités musicales auprès de journalistes. Alors, moi, je suis spécialisée sur le web, donc je parle toute la journée avec des journalistes qui écrivent sur le web, qui ont des chaînes sur YouTube, qui font des sessions acoustiques, qui font faire des sessions acoustiques. Mmh. Je parle aussi aux influenceurs, pour essayer de faire parler de mes artistes que je défends et de parler de leur actualité et de leurs albums qu'ils sont en train de promouvoir.
Des interlocuteurs qui sont devenus, enfin moi je parle, moi qui ai une carrière musicale il y a 30 ans, des interlocuteurs qui sont aujourd'hui devenus extrêmement importants et donc très influenceurs aujourd'hui, puisque le web aujourd'hui c'est vraiment aussi important que l'était dans le temps rock and folk, best, les Inoccupables. Aujourd'hui vous devez avoir beaucoup de travail. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans un hôtel et donc vous recevez à la queue leu leu des journalistes pour des interviews, c'est ça, pour que les musiciens...
Voilà, c'est ça le principe. C'est le principe d'une journée promo. Donc on cale plein d'interviews et on reçoit les journalistes soit dans des hôtels, soit dans le label, soit on emmène les artistes dans les locaux des médias. Ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Si on a un tournage et qu'il y a besoin d'un studio, on va chez le média. Et si c'est des interviews où il n'y a pas besoin forcément de se déplacer dans un studio, on peut faire ça dans des hôtels, dans des cadres un peu sympas, pour recevoir tout le monde dans de bonnes conditions.
Bon, en tout cas, ce travail que vous avez dû regarder tout d'abord petite et puis plus jeune à la télé, est-ce que c'était un monde inaccessible pour vous ? D'abord, comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Est-ce que c'était un véritable rêve pour vous de faire ce métier ?
Alors pour moi, c'est pas une réalité en fait, c'est pas possible. J'ai grandi en Ardèche, personne de ma famille ou de mon entourage a travaillé dans le milieu culturel et musical. C'était quelque chose que je voyais à la télé, mais pour moi les artistes, ils étaient dans un autre monde quoi. Et moi j'étais dans la vraie vie et j'ai jamais imaginer que ça soit vraiment quelque chose de possible, mais je me disais, ah là là, ça doit être chouette de travailler dans la musique. J'ai fait des études dans la communication, mais sans me dire encore une fois que j'allais pouvoir travailler vraiment en label. Et puis bon, on se fait son réseau, on monte à Paris, on rencontre des gens, et au bout d'un moment, on se retrouve là. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça se fait que tu sois là aujourd'hui ? Je me regarde, c'est un peu comme si j'étais en dehors de mon corps, et je me regarde, et je me dis, mais comment ça se fait que tu sois assise là et que tu parles de cet artiste que t'as écouté quand t'étais petite ?
D'ailleurs, vous dites...
J'essaye de le vendre.
Vous dites de votre métier qu'il vous pousse à vous dépasser tout le temps. Dans quel sens, en fait ?
Dans le sens où j'ai toujours envie de faire mieux parce que je défends des artistes, des carrières, des projets qui sont hyper important pour eux, c'est normal, c'est leur œuvre.
Oui.
Donc je défends pas, enfin souvent je dis ça quand les gens me disent oh là là, t'as l'air de vraiment faire ça avec passion et envie, je dis mais ouais, mais je défends pas des boîtes de conserve quoi. Je défends des êtres humains qui ont créé quelque chose et qui pour qui c'est souvent c'est vital de faire ça et ben, c'est impossible de pas le faire avec le cœur et avec envie et,
oui, parce que
et surtout de pas le faire en se disant il faut que je fasse mieux, il faut toujours faire mieux.
Parce que dans votre travail et pour le succès de l'artiste, vous êtes un roi essentiel hein, quand même c'est ce qui fait le côté passion hein, de votre travail. Exactement. C'est que vous avez, ouais, un, oui, vous avez quand même un poste où vous savez qu'il repose sur vos épaules, quelque chose de super important. Pour peu que vous adoriez en plus la musique, eh bien vous, oui, êtes une passionnée. Aujourd'hui on peut dire que votre travail vous passionne.
Complètement, il me passionne et puis oui, il y a une forme de pression quand même parce qu'on se dit mince, oui, c'est nous qui sommes un peu le lien entre l'artiste et le journaliste, mmh, et si on le fait mal, si on en parle mal, si on le fait pas, bah on peut manquer des belles occasions promo, on peut manquer de parler à la bonne personne du projet et ça peut bah malheureusement parfois coûter cher à un projet de pas en avoir parlé correctement ou à la bonne personne. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut être toujours sur le qui-vive et investi.
Alors justement, on va voir que ce travail, même s'il est passionnant, il n'est pas toujours tout rose, il n'est pas toujours une source de bonheur et comme vous venez de le dire, il est source aussi d'une forte pression. On continue à en parler dans quelques instants, Nina, vous restez en ligne avec nous.
Europe 1. Faut-il forcément s'épanouir au travail ? On vous attend au 39 21, 50 centimes la minute. Vous n'hésitez pas également à nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Votre travail est une source de plaisir, d'épanouissement ou vous le subissez? On parle du bonheur au travail. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39 21 pour nous appeler.
Certains aiment leur travail, d'autres se font aspirer par leur travail. Certains ne l'aiment pas du tout. On le verra dans cette émission. En tout cas, pour l'instant, nous sommes toujours avec Nina qui nous expliquait que dans son travail d'attachée de presse, elle a été totalement passionnée parce qu'il y a, il y a la fibre artistique aussi qui vibre chez vous. Mais la musique, ça fait appel aux sensations aussi, aux ressentis. Alors, ça n'est pas toujours facile, hein, je suppose, et il y a beaucoup de pression. C'est un milieu qui n'est pas toujours très rose. Est-ce que parfois, il vous arrive de fatiguer dans ce milieu et de vous dire, est-ce que j'ai fait le bon choix ou ça ne vous arrive jamais ?
Si, bien sûr, je pense qu'on ne peut jamais être complètement heureux et satisfait à 1000%, mais à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je me dis « Oh là là, je suis fatiguée, oh là là, il y a beaucoup de pression », je pense aux bons moments et les bons moments valent tellement plus la peine que ces petits moments où, bon, bah oui, il y a un peu de stress, mais il y a du stress dans tous les métiers, je pense.
Ouais.
Et je trouve qu'être stressé pour la réussite d'un projet, d'un artiste, ça va, ça en vaut la peine et il y a bien pire dans la vie, donc on relativise assez vite.
Et je me demandais, je pensais à vous, jeune fille en Ardèche qui rêvait de tout ce monde, de paillettes, de musique, enfin de paillettes, vous voyez ce que je veux dire, mais du monde du spectacle.
En fait, non,
il n'y en a pas tant que ça. Mais est-ce que vous écoutez toujours autant de musique parce qu'aujourd'hui,
alors,
c'est
oui,
votre boulot. Oui.
Complètement, j'en écoute beaucoup.
Mais est-ce qu'elle vous nourrit toujours autant?
Il y a une déformation professionnelle quand on écoute de la musique, forcément. Maintenant, je me dis, oh tiens, c'est marrant, ils ont choisi ce single sur ce projet. Oh là là, j'adore ce projet, j'aurais bien aimé le travailler. Bon, et forcément, je pense à des choses auxquelles je ne pensais pas avant en écoutant de la musique. Mais bien sûr que la musique continue de me procurer des émotions hyper fortes. Enfin, c'est ce que je dis souvent à mes amis. Moi, pour moi, c'est la plus grande source d'émotions sur Terre, pour moi. Alors, après, chacun sa passion et chacun ses émotions. Mais pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ce métier-là, je pense que je le ferai pendant longtemps. J'espère, en tout cas.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans une grande maison de disques aujourd'hui, ce qu'on appelle une major. Hein, oui. Il y a une réalité économique, une pression aujourd'hui, plus que jamais dans ce milieu de la musique qui, en 30 ans, s'est complètement transformé avec l'avènement de Deezer, de Apple, enfin de tout. Voilà, aujourd'hui, on paye 9 euros enfin, ou 10 euros pour écouter toute la musique. Ça a totalement changé votre métier aussi. Et justement, la pression qu'il peut y avoir sur ces attachés de presse, est-ce que ce métier, il n'est pas trop aliénant finalement, parce que est-ce que vous prenez des vacances comme vous voulez et est-ce que quand vous partez en vacances, vous n'embarquez pas le téléphone, l'ordinateur et on continue à travailler? Est-ce que c'est ça aussi votre vie aujourd'hui?
Alors, on est libre de faire ce qu'on veut quand même. Bien sûr qu'on prend des vacances, bien sûr que le métier peut nous suivre si on le souhaite. Après, si on veut couper nos téléphones pendant nos vacances, on a le droit. Personne ne nous force à avoir nos portables allumés H24. Moi, répondre à un journaliste qui a besoin d'un truc en urgence le soir, ça ne me dérange pas. C'est des gens avec qui je collabore, je les vois plus comme des gens avec qui avec qui je travaille main dans la main que des gens qui, enfin, je suis attachée de presse dans une maison de disques, mais et les journalistes travaillent en médias, mais je travaille avec eux au quotidien et c'est agréable de leur parler et je suis là pour les aider. Eux, ils sont là pour écouter les projets que je défends, donc il y a aucun problème pour moi à leur répondre, peut-être à des horaires qui sont pas des horaires dits de bureau. Et pareil, quand un artiste a un doute sur quelque chose, c'est du conseil, c'est de l'échange humain et oui, ça peut dépasser les horaires classiques, mais il n'y a pas de souci pour moi. Aller en concert, pareil, c'est en dehors des horaires de bureau, mais c'est quelque chose d'hyper intéressant et de passionnant. Donc, j'y vais aussi avec le plaisir. Parfois, quand je suis fatiguée, je me dis non, ce soir, tu vas pas, tu rentres, tu vas te reposer. Voilà, donc on est un peu libre de faire ce qu'on veut et c'est ça aussi qui est plaisant. C'est ça qui permet de continuer à aimer ça.
On sent quand même qu'il y a beaucoup de plaisir, en tout cas, vous prenez beaucoup de plaisir dans votre travail. Vous devez tout de même échanger avec des amis, garçons ou filles de votre âge qui exercent tout à fait d'autres métiers. Vous avez sans doute autour de vous des amis à vous qui ne s'éclatent pas dans leur boulot.
Je me rends compte que j'ai de la chance.
Vous avez de la chance.
Ouais. Ah oui, absolument.
Il est en adéquation avec vos aspirations profondes, ce métier aujourd'hui.
Tout à fait, oui, j'ai des amis qui sont qui travaillent en hôpital, j'en ai d'autres qui travaillent dans des start-up, voilà, de plusieurs univers qui peuvent se croiser et c'est vrai que c'est pas les mêmes ressenti souvent quand on parle de nos métiers. Et c'est vrai que souvent, quand on sort d'une discussion un peu sur nos vies professionnelles, je me rends compte que j'ai de la chance et que travailler avec la passion première qui me nourrit, bah oui, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une chance et je me dis c'est fou parce que tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là c'est pour ça que j'en profite aussi parce que je me dis que ça peut pas, peut-être que ça ne durera pas tout le long de ma carrière. C'est ma première vraie grosse expérience. Ça fait 6 ans que je fais ça. Je sais pas si ça continuera pendant 40 ans, mais j'espère le plus longtemps possible en tout cas.
Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Nina, pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Noémie Lemaine. Elle est psychologue du travail, coach et fondatrice du cabinet UpChange.
Europe 1.
Votre travail, c'est une simple source de revenus pour payer vos factures ou c'est une véritable passion? Aimer son travail pour être heureux, c'est indispensable selon vous? Vous nous racontez au 39-21.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Le travail occupe une grande partie de nos journées, de notre vie. Il vous plaît, vous motive, vous rend heureux, vous vous en contentez simplement ou alors vous le subissez. Vous nous faites part de votre témoignage au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant avec Noémie Lemaine, qui est psychologue du travail, coach, fondatrice du cabinet UpChange. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là.
Bah écoutez, nous aussi. Première question sur l'amour ou en tout cas le bien-être que l'on peut ressentir au travail. D'abord, est-ce qu'on doit se sentir utile pour l'aimer, ce travail?
Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être utiles pour aimer leur travail et puis il y a des gens qui vont avoir d'autres besoins. Et c'est comme ça aussi. L'avantage, c'est que du coup, chacun peut trouver un travail qui va lui correspondre. Mm-hmm. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir le sentiment de servir à quelque chose parce que ça les conforte dans un positionnement, une place qu'ils ont dans la société. Oui. Quand j'ai ma place, eh bien, finalement, je suis plus solide et je me sens plus à l'aise dans la vie puisque j'ai ma place.
Mmh. Ce que vous entendez par là, c'est que on n'est pas obligé d'aimer son travail, mais il peut correspondre à un très bon salaire, ce qui nous marque socialement. Et pour certains, finalement, c'est ça qui est important, c'est de gagner de l'argent et de pouvoir acquérir une sorte de liberté.
Exactement. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Pour certains, leur besoin va être, par exemple, d'avoir une position sociale très élevée. Donc, ils vont se sentir plus épanouis quand ils auront cette position sociale.
Mmh. Mais vous, lorsque vous travaillez sur ce milieu du travail, en fait, quelles sont les principales motivations que vous retrouvez face à ceux qui viennent vous en parler?
Eh bien, ça peut être, par exemple, aider.
Oui.
Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aider. Il y a des gens qui vont avoir besoin de séduire, par exemple, si c'est « je plais ». je plais, j'ai un public, donc je suis. D'autres, j'aide. Il y a des gens qui vont avoir d'autres, des besoins qui vont être, par exemple, je dirige, je commande.
Oui.
Je commande. Donc, le fait de commander et de diriger va être porteur et va leur donner le sentiment de s'épanouir. Mmh. Il y a des gens pour qui ça va être je crée, j'invente. Donc, le fait d'être dans l'invention va être pour eux un grand plaisir et un grand bonheur. Les motivations sont différentes, mais là, je vous en ai donné quelques-unes comme ça. Aider, séduire, commander, créer.
On a parlé de gagner de l'argent aussi.
Gagner de l'argent, mm-hmm. Créer du lien aussi. Il y a des gens pour qui ce qui est important, c'est d'être en relation avec d'autres.
Ouais.
C'est d'être en lien avec d'autres pour finalement se sentir bien. Donc, créer du lien entre des communautés, entre des gens, ça peut être aussi une motivation.
Mais est-ce qu'en règle générale, le travail alimentaire est-il forcément source d'ennui problématique par rapport à tous ceux que vous rencontrez?
Ben, la manière dont vous le parlez, déjà, le fait que ce soit alimentaire, ça veut dire que ce n'est pas une passion.
Oui, mais ça peut correspondre, comme je l'ai dit, tout de même à un certain salaire. Or, c'est vrai que le salaire ne fait pas tout.
Ah oui, ce que vous entendez par alimentaire, ça veut dire que je ne suis pas dans mes motivations.
Exactement. On sort des motivations dont vous venez de parler, et puis on décroche. Voilà, on décroche quelque chose qui est bien payé, qui est très bien payé, mais bon, c'est par exemple pour.
Généralement, quand on est dans un métier quand même qui ne correspond pas à ses motivations, on n'est quand même pas très bien.
C'est difficile.
Si on est dans un métier même qui est à l'opposé de ses motivations, là, on n'est pas bien. Ce qui est important, c'est d'être dans ses motivations intrinsèques. Plus on est en phase avec ses motivations et ses valeurs, en fait, comme on voit la personne Nina qui, finalement, aime bien aider, qui aime bien aider les gens, donc sa valeur, elle dit. Je ne défends pas des boîtes de concert, je défends des gens, elle se sent aussi en lien avec ses valeurs. Et donc, plus on est en lien, plus le métier ressemble à quelque chose de passionnel, en fait, de fondamental. En fait, du coup, ces gens-là n'ont pas l'impression de travailler. Mm-hmm. Ces gens-là, finalement, existent plus. Donc, c'est l'avantage. On dit, si vous voulez ne pas travailler, choisissez de travailler dans votre passion.
Je dirais que dans toutes les motivations que vous avez citées, pratiquement, Nina, toutes ces motivations sont dans ce premier témoignage, celui de Nina. Mais pour ceux qui ont un travail qu'ils n'ont pas choisi obligatoirement, on parle d'un travail alimentaire, c'est-à-dire que voilà, on a trouvé un poste à un moment parce que on n'est pas allé obligatoirement jusqu'au bac, parce que la vie a fait que. Est-ce que le télétravail, les bureaux aménagés, les happiness managers, les siestes, tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour le bien-être des salariés, pour améliorer ce quotidien qui n'est pas toujours facile, est-ce que cela permet de rendre ce travail plus moralement et physiquement acceptable?
Alors déjà, il faut faire un petit peu le distinguo entre bonheur et épanouissement, c'est important, parce que le travail n'est pas c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est on le fabrique soi-même. Mais en fait, un travail épanouissant, c'est un travail qui vous permet de vous développer en cohérence avec vos valeurs et vos motivations. Donc ça, c'est différent. Donc votre question, c'était si je suis pas en cohérence avec moi, avec mes valeurs et mes motivations.
Si j'ai un travail qui ne correspond pas vraiment à, comme Nina, à mes rêves, et que finalement je travaille parce que il faut que je gagne ma vie, mais que ça ne m'épanouit pas totalement. Est-ce que tout ce qui est mis en place aujourd'hui par les patrons de ces entreprises, comme le télétravail, les bureaux aménagés, les happiness managers, est-ce que ça contribue vraiment à rendre ce travail plus agréable, en fait?
Aider, puisque ça rajoute pas une contrainte et ça rajoute pas du stress. C'est-à-dire que ça sera plus facile dans un environnement qui prend soin de vous plutôt que dans un environnement qui vous maltraite. C'est évident. Mais c'est pas ça qui va fournir finalement le vrai épanouissement.
Oui.
Je sais pas si vous connaissez l'histoire du casseur de cailloux.
Non. Mais vous savez quoi, Noémie Lemaine, vous allez me la raconter juste après. Vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail. Dans quelques instants, nous serons avec Frédéric. Il a été victime de burn-out. C'est le fait de s'ennuyer profondément au travail. Il souhaite aujourd'hui faire reconnaître cette pathologie. Et vous pourrez me raconter cette histoire du casseur de cailloux.
Et il y a Philippe, 52 ans, qui témoigne au 39-21. Je suis infirmier en psychiatrie. J'ai beaucoup donné pour mon travail, pardon. Et depuis 2 mois, je suis en arrêt. J'en avais ras-le-bol. Mais à mon âge, je suis obligée de rester.
Europe 1.
Nous demandons cet après-midi s'il faut aimer son travail pour être heureux. Vous témoignez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous composez le 39-21 pour nous dire comment ça se passe dans votre vie professionnelle. Votre travail est une passion, est-il alimentaire ou synonyme de labeur? On continue de vous écouter et voici Ava Max avec Sweet But Psycho. C'est ce qu'on appelle une révélation pop. Ava Max, droite lignée de Lady Gaga ou de CIA, c'était Sweet But Psycho sur Europe 1. Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux de venir le matin au travail? Est-ce indispensable selon vous d'aimer son travail pour s'épanouir dans la vie? Vous n'hésitez pas à témoigner. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes toujours avec Noémie Lemaine avant d'accueillir dans quelques instants Frédéric. Noémie Lemaine, vous étiez en train de me raconter votre histoire. En tout cas, je vous ai interrompu juste au début de cette histoire de casseur de cailloux. Quelle est-elle?
Je vais la raconter brièvement.
Oui,
donc, en fait, il y a deux casseurs de cailloux, chacun en train de casser des cailloux sur leur tas de cailloux.
Oui.
Donc, quelqu'un leur demande « qu'est-ce que tu fais ?» Demande au premier « qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « c'est pas très intéressant, je casse des cailloux toute la journée, c'est l'enfer, c'est pas agréable, c'est très pénible.
Mm-hmm. »
Okay,
oui.
Et on demande à l'autre « et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il faisait donc la même chose, il casse des cailloux. Et l'autre répond « ah ben, moi je fais un travail qui permet de payer les études de mes enfants, de payer mon loyer, puis de partir en vacances, et puis ça me paye une guitare parce que j'adore faire la guitare dans mes loisirs. Et puis en plus, je sais que ces cailloux, ils vont participer à la construction des cathédrales. En fait, moi, je construis des cathédrales. »
Ouais. Elle résume tout, votre histoire,
voilà,
de casseur de cailloux. Justement, on va vous rester bien évidemment en ligne avec nous, hein, Noémie Lemaine. On va accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, bonjour Noémie.
Bonjour Ombline.
Je pense que c'est pour la
non, mais
bonjour,
oui,
Noémie,
non, mais c'est parce que je pense qu'en fait, et en fait, nous sommes quatre en fait.
Nous sommes nombreux sur cette antenne.
Excusez-moi parce que je pensais que vous aviez confondu Noémie avec Ombline. Mais du coup, en fait, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, 46 ans et j'habite Paris. Donc voilà.
D'accord.
Je salue tous les
Parisiens.
Tout le monde qui nous écoute.
Très bien. Alors, vous, Frédéric, vous adoriez votre travail. Hein. Je vais résumer.
Ouais,
et je vais résumer un peu ce qui vous est arrivé, parce qu'au bout de quelques temps, on ne va pas rentrer dans les détails exacts,
ouais,
mais vous avez commencé à avoir de moins en moins de tâches à faire, à travailler très peu. Et vous vous êtes rendu compte qu'on était en train, classiquement, de vous mettre au placard. Le travail, pourtant, je l'ai précisé, c'était quelque chose de vraiment qui faisait partie de votre bien-être. Cette mise au placard, elle a provoqué chez vous une profonde dépression. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Vous êtes senti inutile. Racontez-moi ce passage-là.
De la honte.
De la honte.
La honte d'être payé à ne rien foutre.
Oui.
Payé. De la honte de ne pas pouvoir en parler à qui que ce soit, ni à ses collègues. Quand j'ai essayé d'évoquer le sujet avec mes différents responsables hiérarchiques, ils m'offraient un café.
Oui.
Ils me demandaient d'aller chercher les enfants au golf, parce qu'ils avaient rien à me faire. Ils venaient de perdre un très gros contrat.
Oui.
Et donc on était dans l'expectative, tout le monde avait la trouille, et là où vous avez des potes, ces potes deviennent vos pires ennemis.
Mmh, mmh.
Et votre famille ne peut pas comprendre.
Vous vous sentiez inutile, comme un imposteur à ce moment-là, parce que je sais que pour avoir rencontré plusieurs personnes qui étaient payées et qui ont été placardisées ensuite avec le même salaire, je sais que c'est ce sentiment qui revenait,
Non, mais c'est terrible, vous endormez plus la nuit, vous réveillez en pleine nuit, à chialer, c'est les larmes qui vous réveillent.
Oui, oui.
Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et quand je arrivais au travail, je fuyais mes collègues alors que j'étais responsable des services généraux. Donc, normalement, j'étais à leur service.
Oui.
Mais on craque complètement.
Mmh. Bah justement, vous dites que vous avez... On parle beaucoup du burn-out, hein, du syndrome d'épuisement professionnel qui commence à être retenu, à être reconnu. Mais très peu de ce que vous avez vécu. Pardon ?
J'attire juste votre attention sur le fait qu'il n'est pas reconnu par la justice.
Non, non, pas encore, mais on commence vraiment à en parler beaucoup et on est tout près d'un texte.
burn-out et burn-out sont des anglicismes qui ne seront jamais retenus par la justice et simplement résumés par harcèlement professionnel.
En tout cas, au moment
l'entreprise a été condamnée.
Oui, au moment où on en parle, vous avez raison. Aucun texte, en tout cas, ne fait l'objet de entoure ce burn-out. Même si quelques jurisprudences aujourd'hui font que on reconnaît ici et là le burn-out. Vous parlez du bore-out, encore un nom à tendance anglaise. Qu'est-ce que c'est le bore-out ?
En fait, moi, je l'ai découvert parce que j'ai fait une crise d'épilepsie au volant. J'ai été transféré dans le coma à l'hôpital Bicêtre. Et puis, quand je suis sorti du coma, j'ai été reconvoqué par le médecin 2 à 3 semaines plus tard. Et puis, je ne faisais que pleurer. Je ne pouvais pas parler.
Ouais.
Et puis, je montrais juste des échanges de mails. De temps en temps, j'arrivais à évoquer sur 1h30 de rendez-vous, j'arrivais à faire 3 phrases. Mmh. Il a fermé mon dossier et dessus, il a écrit en gros BORE, BOREOUT.
Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut
non,
dire
docteur, vous êtes trompé. Il me dit non.
Non.
Et là, après, je suis sorti. Je suis rentré en taxi parce que j'étais épuisé psychologiquement, physiquement, et j'ai commencé quelques jours après à chercher.
Oui.
Et en fait, ça veut dire l'épuisement par l'ennui.
L'ennui.
C'est terrible.
Bon,
terrible.
Voulant
c'est,
dire
c'est ce
ennui.
Qu'il y a
de pire.
On n'a qu'une seule et unique envie, c'est se suicider.
Oui. Comment est-ce que aujourd'hui vous allez, en fait, est-ce que vous avez commencé à poser des mots justement sur ce bore-out.
Oui, je commence. Ouais,
et est-ce que vous commencez à accepter que, surtout, ça n'est pas de votre fait que cet ennui est arrivé, c'est qu'on vous l'a imposé, cet
le
ennui
problème, c'est qu'en, le problème, c'est qu'en face, l'entreprise qui aurait dû éventuellement prendre en charge les frais médicaux ou éventuellement juste évoquer un terme merci, me traite de maître chanteur et achète des pages de publicité sur Facebook pour le faire. Donc c'est assez troublant. Ils ont été condamnés. Nous avons fait appel des deux côtés, donc en fait, le jugement actuel est avec une exécution provisoire et l'appel n'est pas suspensif.
Quelle condamnation, s'il vous plaît, Frédéric ? Quelle condamnation ?
Harcèlement moral. En
d'accord.
Fait, de toute façon, que ce soit burn-out, bore-out ou burn-out, ce sera systématiquement harcèlement moral.
L'entreprise a donc été condamnée. En fait,
oui.
Quel est le jugement exact ?
Le montant total,
oui.
C'est 50 000 euros.
D'accord. Ce qui, pour vous, à mon avis, représente quelque chose de tout à fait
enfin, disons que c'était
dérisoire.
Une entreprise du monde du luxe, que je ne citerai pas pour les raisons que vous comprendrez aisément, et qui fait à peu près 500 millions d'euros ou 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, uniquement côté français, en sachant que la maison mère est aux États-Unis.
En tout cas, on voit à travers votre témoignage, Frédéric, on peut se retrouver du jour au lendemain. On en parlait dans la première partie de cette émission avec Noémie Lemaine et puis aussi Nina. On peut se retrouver à aimer son métier, être passionné. Et puis, tout à coup, les choses changent et puis on se retrouve mis au placard. Et puis, on se prend pour un imposteur et on finit dans ce qui est nouveau. C'est la première fois que j'entends ce nom-là, bore out, c'est-à-dire la maladie de l'ennui. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite bien évidemment bien du courage pour remonter et retrouver un travail qui vous passionnera. Dans quelques instants, nous accueillerons Magali. Elle a eu plusieurs jobs alimentaires et elle va nous expliquer.
Comme Frédéric, au 39-21, vous vous ennuyez au travail. Vous passez peut-être vos journées à tuer le temps quand votre travail ne contribue pas à votre bonheur. On vous lit sur Twitter également, hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 quand votre travail n'est pas seulement alimentaire, mais une source d'épanouissement. Faut-il aimer son travail pour être heureux ? Vous nous racontez au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Magali sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Magali.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Magali ?
Eh bien, j'ai 53 ans et j'habite en Savoie.
D'accord.
Sur les hauteurs d'Aix-les-Bains.
D'accord. Alors vous Magali, si je résume, plus jeune, vous aviez des rêves. Hein. Vous avez pensé être fleuriste et puis décoratrice d'intérieur ou esthéticienne de formation. Et puis la vie en a fait autrement. Vous avez travaillé 7 ans dans une enseigne, puis vous avez changé de travail pour faire de l'aide à la personne. Finalement, vous vous êtes retrouvé à faire des jobs dits hein, qu'on qualifie d'être alimentaires. Pourquoi d'abord ne pas être allé au bout de vos envies?
Eh bien, c'est les circonstances un petit peu. Voilà, on se marie tôt, on fait des enfants et on s'engage. On assume ses choix, voilà.
Oui.
Et on suit son chemin, quoi.
Est-ce que vous avez entendu l'histoire de casseur de cailloux que Noémie Hennemann nous racontait tout à l'heure? Ben moi, je casse des cailloux, je sais pas trop pourquoi. Et puis l'autre qui dit, je casse des cailloux parce que voilà, pour mes enfants, pour partir en vacances, pour m'acheter une guitare. Est-ce que on est un peu dans cette situation-là? C'est comme vous venez de le dire, la vie m'a mené là.
Oui, on peut dire ça comme ça. On essaye de casser les cailloux et on y arrive. Ou des fois, on se prend un mur.
Mais alors, vous avez toujours voulu travailler dans le social, vous? Est-ce que vous êtes arrivé à un moment à trouver un bonheur dans votre travail?
Oui, absolument. Voilà, j'ai fait un peu de l'alimentaire dans la grande distribution, après avoir fait des marchés assez longtemps dans le prêt-à-porter.
Oui.
Et bon, ben la grande distribution, voilà, je n'ai pas trouvé mon bonheur spécialement.
Ouais,
hein. Je pense que quand on veut que son chien meure, on dit qu'il a la rage.
Oui, oui. C'est vrai que la grande distribution, on peut s'arrêter.
Oui.
Oui, c'est très particulier. Est-ce que c'est possible de trouver son bonheur dans la grande distribution?
Pour ceux qui ça convient, moi je pense que oui, hein. Mais les échos que j'en ai, c'est pas vraiment ça. Hein. Faut rentrer dans le moule, faut avancer. Et si on n'est pas content, la porte est grande ouverte. Il y en a 300 qui attendent.
Hein. Et donc aujourd'hui, ce plaisir, vous le trouvez ailleurs qu'au travail? Vous arrivez à...
Voilà.
Oui.
J'ai tout quitté pour faire de l'aide à la personne et je me sens beaucoup plus utile. Les gens, parfois, vous êtes la seule personne qui voit de la journée. Vous êtes un rayon de soleil et ça change tout, quoi. Autant pour eux que pour moi, voyez.
Est-ce que vous avez un regret dans votre carrière? Bon, vous êtes encore jeune, hein, vous avez encore des années devant vous pour travailler, mais est-ce que vous auriez aimé venir plus tôt, finalement, dans l'aide à la personne? Puisque j'écoutais ce matin, dans la matinale de Nikos, justement, qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi aujourd'hui, qu'on avait 350 000 offres d'emploi aujourd'hui, et que beaucoup concerner l'aide à la personne. Est-ce que aujourd'hui vous conseillez à ces jeunes qui cherchent du travail plutôt que d'aller dans des boulots comme ça alimentaires dans la grande distribution, plutôt d'aller dans ces travaux ou dans ce type de travail où on aide, où ça, on donne du sens à ce qu'on fait?
Tout à fait. Oui, je peux conseiller ça évidemment, mais il faut surtout suivre son instinct, ses envies, quoi. C'est pas permis à tout le monde. Hein. Il y a aussi il y a du bon, il y a du mauvais. Et puis, il faut vraiment avoir ça en soi, je pense aussi, apporter aux gens l'entraide.
Vous l'avez en tout cas.
Oui, je pense que je l'ai acquis et j'apprécie beaucoup. Et des gens m'apprécient, je les apprécie également.
Bon, eh ben écoutez,
voilà.
C'est très bien. Mille merci de nous avoir appelés cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Un gros baiser à tous les Savoyards qui nous écoutent, Magali. Et puis bon courage à vous. Dans quelques instants, nous serons avec Yacine. Il se sent beaucoup mieux depuis qu'il a trouvé un travail fixe. Il a repris confiance en lui.
Et Cathy, 43 ans, témoigne au 39-21. Je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs. J'aime mon travail. Je suis en profession libérale et je me sens plus libre que quand je travaille en association. J'ai toujours voulu travailler dans le social. J'aime vraiment le métier que je fais.
Europe 1.
Faut-il forcément s'épanouir au travail pour être heureux? On vous attend au 39-21. Olivier Delacroix revient sur Europe 1. Nous continuons de vous demander si le travail doit être un épanouissement pour se sentir bien dans sa vie. On vous écoute au 39-21. Tout de suite, Patrick Bruel avec Pas eu le temps. Et une chanson de son album Ce soir on sort, Patrick Bruel avec Pas eu le temps sur Europe 1. Est-ce que votre travail est important pour votre bien-être. Vous êtes avec Olivier Delacroix pour en parler sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant avec Virginie, puisque nous ne sommes pas arrivés à joindre Yacine, malheureusement. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Alors, je ne voulais pas dire que malheureusement on est avec vous, parce que voilà, parce qu'on devait vous prendre tous les deux, mais voilà, on voulait comparer un peu vos deux métiers, qui sont deux métiers où il y a une certaine passion. Métiers dont vous parlez. Bon, enfin, vous êtes Virginie. D'abord, vous nous appelez d'où et quel âge avez-vous ?
Alors, je suis en Île-de-France, du côté de Paris. Oui. J'ai 40 ans et j'ai le bonheur de faire métier que j'ai choisi à l'âge de 6 ans.
Voilà. Métier de vétérinaire.
Passion, je suis vétérinaire.
Voilà. Un métier dont vous rêviez toute petite, hein, déjà.
Voilà, une vocation qui naît dans le cœur des enfants, qu'on idéalise beaucoup, qu'on nous vend comme un rêve quasiment inatteignable, donc qui a coûté beaucoup de sacrifices.
Alors, quand vous dites qu'on nous vend, qu'entendez-vous par là déjà ?
Ben, on est enfant, donc on nous explique qu'on va soigner des animaux, on va les sauver. Et donc ça sélectionne déjà le cœur d'enfants qui sont assez généreux, assez exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et qui se chargent comme ça d'une mission de sauveur.
Déclenche la vocation encore plus, hein, je pense.
Oui, ça déclenche la vocation. C'est valorisant. C'est valorisant, on trouve sa place, on se sent utile. Que pour les enfants, il y a une enquête scientifique, il y a une curiosité de la vie, il y a beaucoup de biologie. C'est passionnant. Et en plus, on est au contact du sensible et de quelque chose qu'il faut apprivoiser. Mmh. Donc ça joint beaucoup de valeurs qui, en tout cas, sélectionnent les envies, les motivations très bien.
Est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre téléphone, parce que je sais pas, il y a un petit effet qui se fait. Est-ce que déjà durant les études, vous avez pressenti que ce métier, vous alliez l'aimer, hein, parce que vous l'aimez, hein, je précise que vous continuez à être amoureuse de ce métier, mais voilà, que la pression, que toutes les contraintes liées à ce métier, dès les études, vous avez senti que ça n'allait pas être si le rêve de petite fille que vous aviez eu.
On est plongé dedans dès le début de nos études, hein, post-bac. On a des années de prépa qui sont extrêmement dures. Ensuite, on rentre par un concours très sélectif. Donc, on est déjà dans le sacrifice déjà au départ de la filière.
Oui.
Ensuite, on a des choix à faire. L'école qui, pendant 2 ans, donne de la théorie, peu de pratique. Et on découvre l'animal en 3e année d'école avec un parcours assez lourd et dense d'apprentissage. Donc, c'est toujours passionnant parce qu'on en apprend de nouvelles tous les jours. Et puis, c'est un métier extrêmement complet. On est médecin, on est chirurgien, on touche toutes les disciplines, cardiologie, dermatologie, cancérologie, c'est intellectuellement grisant et en plus ça se concrétise très rapidement.
Alors justement Virginie, Virginie, on parle aujourd'hui du fait d'aimer son travail pour être heureux ou pas. Vous qui êtes vétérinaire aujourd'hui, est-ce que ce travail il vous rend heureux et pour heureuse ou pour quelle raison ou est-ce que ça n'est pas tout à fait finalement le rêve que vous aviez et racontez-moi.
Alors pour ma part, c'est tous les matins un bonheur que de se lever pour exercer mon métier, mais beaucoup de moments de ma vie, la question s'est posée de savoir si ça ne me coûtait pas trop cher. Intellectuellement, c'est extrêmement valorisant.
Ouais.
On fait ce qu'on aime, on n'a pas de routine, on est au service des gens, on est au cœur de l'intime, de l'émotionnel. C'est extrêmement riche en rencontres humaines.
Ouais.
Et le verso de la médaille, c'est que c'est extrêmement contraignant. Qu'on est une profession de santé, pas considérée comme étant de santé justement, mais il y a un amalgame parce que en France, on n'a pas vraiment la valeur du soin. Puisqu'on a un système de santé très privilégié qui nous cache un petit peu le coût réel des choses. Et non, en tant que vétérinaire, on est du coup extrêmement exposé.
Alors, exposé comme par exemple au niveau des charges, comme les artisans le sont, parce que je sais que c'est une profession libérale et que voilà, il y a une partie aussi qui y rentre. Mais est-ce qu'aussi au niveau des heures, dites-moi à quel
totalement, parce qu'on a une une permanence ou une continuité des soins assurés. Donc, les confrères sont obligés d'assurer les soins la nuit, le week-end. Donc, on découvre assez rapidement que on doit être quasiment joignable en permanence.
Oui.
Un métier avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. On a la responsabilité des gens, leur confiance. On doit intervenir parfois dans des cas d'extrême urgence avec une charge émotionnelle des propriétaires de nos animaux qui est conséquente. Mmh. Et puis, beaucoup de matériel à disposition, donc très coûteux au quotidien, pour pouvoir exercer correctement notre métier. La médecine a fait un bond. Et aujourd'hui, on est équipé, on a un bloc opératoire, on a une imagerie de pointe, échographie la plupart du temps, mais,
ouais.
mais pas seulement, mmh. canner.
Ouais, on se rend compte en tout cas que vétérinaire aujourd'hui, eh bien, comme c'est pas tout à fait pareil que les médecins généralistes, hein, c'est que c'est vrai que dans les campagnes, on s'aperçoit que les vétérinaires sont obligés de se renouveler, ne serait-ce que par rapport, voilà, au bétail. Voilà, il y a tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, ce métier n'est plus aussi beau que le rêve qu'on peut en avoir enfant. Merci en tout cas Virginie pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup à Nina, à Frédéric, à Magali de nous avoir appelés. Merci à Noémie Lemen pour ses éclairages. On l'aura compris, pour vivre, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler, à moins d'être rentier. Lorsque le travail est une passion, c'est souvent source d'épanouissement. Et les heures passées au travail sont bien plus faciles à supporter. Le travail permet aussi de se sentir utile, de donner un sens à sa vie. Mais on ne choisit pas toujours son travail, sa destinée. Et il faut alors composer avec, trouver son bonheur ailleurs ou dans des tâches particulières. Je renvoie à l'histoire du casseur de cailloux de Noémie Lemen. Et puis, ne serait-ce que le salaire qu'il génère peut être aussi une source de satisfaction. Alors, si on n'aime pas son travail, mais qu'on est bien payé, bien, allons la trouver là. Le fait d'être autonome aussi, quand on est plus jeune. On peut continuer à en parler sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, vous pouvez échanger entre vous. Twitter, hashtag Europe 1. Et puis, bien sûr, Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, vendredi, nous parlerons ensemble du libertinage. Ce libertinage est-il compatible avec le couple ? Alors, si bien le libertinage pimente votre couple, ou si vous avez essayé l'expérience, eh bien, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'étais ravi de passer cette heure avec vous.
Merci.
Et il est bientôt l'heure, à 16h, de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, eh bien, vous allez voir des invités, oui, particulièrement hauts en couleur.
Bruno Solo et Thierry Frémont, le meilleur des tontons flingueurs avec Carl Zéro sur Europe 1. À demain, Olivier.
Quant à moi, je vous dis à demain 15h. Bonne journée, au revoir.